Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Eh bien, ce soir, donc, nous nous retrouvons ici autour d'un ouvrage que j'ai trouvé passionnant. Un ouvrage de Ségolène Lefebvre qui s'intitule « Le vin dans la cuisine ». Alors, Ségolène, bonsoir.
Bonsoir.
Un mot peut-être pour commencer. Je me suis demandé si un auteur qui écrit un ouvrage qui s'intitule « Le vin dans la cuisine » est a priori un amateur d'abord de vin ou d'abord de cuisine, de mets, qui le pousse vers l'autre aliment. Vous êtes peut-être au départ, c'est quoi votre sensibilité première, s'il y en a une ?
C'est un peu les deux, en fait. Oui, j'aime la cuisine, j'aime cuisiner. La cuisine au vin est une cuisine que j'aime faire, parce qu'elle est bonne et un peu inratable. Et puis, oui, le vin, j'aime beaucoup le vin. J'aime beaucoup le vin, j'aime déguster, j'aime découvrir des nouveaux vins.
D'accord, rencontrer
des vignerons, voilà,
ouais, ouais. Oui. Oui. Conjugué,
tout à fait.
Alors, cet ouvrage est un voyage, finalement, puisque vous nous emmenez à travers le temps, évoquant, j'allais dire, les civilisations anciennes jusqu'à notre époque contemporaine. Voyage à travers le temps, voyage à travers l'espace aussi, puisque vous évoquez différentes régions de France et du monde. Et puis, voyage gastronomique, bien sûr, puisque vous abordez tout un tas de recettes. On y reviendra, bien sûr. Alors, juste peut-être pour commencer, un mot. J'ai bien aimé votre parallèle avec le soldat inconnu que l'on célèbre, évidemment, pour en songeant aux autres soldats morts pour la France. Et vous évoquez le cuisinier inconnu, c'est-à-dire celui qui, à l'origine, aurait, comme vous l'indiquez, détourné le goulot d'un pichet de vin vers la marmite. C'est-à-dire comment la première recette a été inventée, si on peut dire, par un homme qui aurait eu l'idée de rapprocher le vin de la marmite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette idée d'écrire un ouvrage sur ce thème-là vous est venue ?
Ben, parce que je suis historienne, j'aime beaucoup aller décortiquer un petit peu, comprendre aussi pourquoi on mange comme ça, pourquoi on agit comme ça. Et mon idée, c'est un petit peu de pas manger idiot, aller voir pourquoi, d'où sont nées les recettes, les cuisines, les plats, comment ils ont évolué à travers le temps, Alors là, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme du cuisinier inconnu, parce qu'on ne sait pas qui le premier a inventé ces recettes de cuisine au vin, puisqu'elles sont très anciennes, qu'on les retrouve dans les premiers recueils de cuisine au Moyen-Âge, même un petit peu avant, chez les Romains et chez les Grecs. Enfin, on a très peu de témoignages grecs. Voilà, donc j'aime bien aller fouiller dans les tréfonds, dans les livres de cuisine de travers les siècles, pour voir un petit peu comment cette cuisine est née, a évolué, a plu, a pas plu, par époque, etc. Voilà, c'est une curiosité. Je suis très curieuse, en fait. C'est pas toujours un vilain défaut, la curiosité. Et je trouve ça intéressant de comprendre ce qu'on mange, en fait.
Alors, effectivement, vous nous faites voyager dans le temps, puisque vous évoquez au tout début l'existence du vin dans la cuisine, jusque, j'allais dire, depuis les Grecs, voire même vous évoquez Babylone, mais vous indiquez que c'était plutôt le vinaigre,
oui,
et la bière qui était présente chez les Babyloniens. Et après, donc, on arrive chez les Grecs, où le vin commence à être présent et, j'allais dire, déployé, ou en tout cas cité, dans un certain nombre d'ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces civilisations antiques, la Grèce et Rome, et leur lien avec le vin ?
Ah ben, c'était les grandes régions du vin. Enfin, pour le vin dans l'Antiquité, c'était le pétrole. Des fortunes se sont construites dessus. Ça avait une importance à la fois religieuse, symbolique, sociale, autour des banquets et des symposiums surtout. Et donc, ça avait une importance énorme. C'est en Grèce qu'on a commencé à vinifier vraiment sérieusement, et les Romains ont commencé à faire des crus qui se conservaient. Donc ça, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, mais à Apicius, on trouve beaucoup de recettes de cuisine au vin qui ressemblent beaucoup à celles que l'on fait encore maintenant. Cuisine très traditionnelle et populaire, je veux dire, enfin, des cuisines familiales, mais qui sont quand même assez recherchées. Chez les Grecs, eh bien non, quasiment tout a disparu. Donc on n'a que des fragments. Et surtout, ce qu'on a gardé, qui est tout à fait intéressant, c'est des pains dans lesquels sont mélangés des vins, qui se passent de gâteaux, en fait. Il n'y avait pas de gâteaux dans l'Antiquité, donc on mettait des fruits, du fromage, du vin, et on faisait des choses assez, qui devaient être assez savoureuses, d'ailleurs, hein, en fait. Mais ce n'était pas non plus des gros mangeurs de viande et des grands gastronomes, les Grecs, mais comme on ne sait pas très bien... On n'a pas grand trace de leur cuisine. On est obligé de s'appuyer sur la cuisine romaine, qui, elle, est beaucoup plus... Il y avait une vraie école de cuisine à Rome.
Et vous évoquez chez les Grecs un certain mythékos que vous signalez comme étant le Phidias de la cuisine.
C'est ça. Oui, qui est cité par Athénée, mais dont on n'a quasiment plus rien. Non, tout a disparu. C'est fort triste. Mais c'est pour ça que je me raccroche à la cuisine babylonienne. Parce que Babylone est effectivement un pays de bière. Il y avait du vin, mais c'était à boire en libation et pour les rois et les élites de la société. Mais on retrouve quand même l'utilisation du vinaigre que l'on retrouve en Moyen Âge. Donc il y a quand même une filiation entre cette cuisine, la première cuisine du monde, comme dit Jean Bottero, et la cuisine de chez nous, du Moyen Âge, où le vinaigre et les vins, qui étaient d'ailleurs assez acides à cette époque-là, et le goût de l'acide est très important dans cette cuisine.
Oui. Oui. Alors, effectivement, quand on aborde la partie médiévale, c'est ce que vous indiquez. Vous dites aussi que ce Moyen Âge, c'est l'apparition des premiers recueils de cuisine.
Oui. Oui, les premiers recueils, il y en a un qui a un nom tout en latin très, que personne ne connaît, mais le premier connu, c'est le dit de cuisine de Maître Chicard, le maître que des ducs de Savoie, 1420, je crois. Et puis, juste avant, il y a le Ménager de Paris, enfin, qui n'est pas un recueil de cuisine, mais il y a tout un chapitre sur la cuisine, parce que ce fameux bourgeois de Paris devait bien aimer manger, puisqu'il donnait des conseils à sa très jeune femme, et il y a énormément de recettes. D'ailleurs, on retrouve des équivalences entre les recettes des maîtres queux et les recettes bourgeoises traditionnelles, puisque de toute façon, quel que soit le milieu, on avait une cheminée, on rôtissait, on faisait bouillir. On n'avait pas 36 manières de cuisiner, qu'on soit riche ou pauvre. Alors après, c'est ce qu'on mettait dedans, évidemment, qui change.
Et vous dites aussi qu'au Moyen-Âge, précisément, donc évidemment, on fait du vin, et que le vin, parfois, peut-être plus qu'aujourd'hui, puisque les techniques de vinification, la maîtrise de la maturité est différente. On avait souvent des vins acides, qui étaient donc plutôt favorables à la cuisine, et en particulier aux marinades.
Tout à fait. Et c'est justement la première utilisation, c'est bien que vous souligniez les marinades, puisque le vin et le vinaigre ont servi à conserver les viandes. On avait des viandes souvent très fraîche d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, puisque les bouchers qui surveillaient les marchés interdisaient qu'on garde la viande plus d'un ou deux jours. La faire mariner permettait à la fois de la conserver et aussi de la tendrir un peu, parce que quand même, la viande très fraîche. Heureusement qu'on la faisait bouillir longtemps, parce que ça devait quand même, il fallait avoir de bonnes dents. Donc c'est ça qui était très intéressant. Et c'est vrai qu'on avait des vins qui dit aigrelets, qui faisaient danser les chèvres, comme on disait dans une petite chanson du Moyen-Âge. Donc on imagine ce que c'était. Pour nos palais contemporains et habitués au bon vin, on ne pourrait plus. C'est pour ça qu'on mettait de l'eau dedans, d'ailleurs.
Oui. Alors, le temps passe donc avec cette époque médiévale et puis les recettes de marinade que vous parlez vont finalement céder la place au XVIIe siècle à ce fameux ragoût, ragouste, comme on voit écrit dans les ouvrages de l'époque. Et là, finalement, c'est l'invention ou en tout cas le développement de manière beaucoup plus large de cette cuisson lente à feu doux.
Oui. Alors, c'est dû aussi à une invention d'un ustensile culinaire qui est le potager, qui permettait, c'est l'ancêtre de nos fourneaux en fait, hein, c'était une pièce en maçonnerie avec plusieurs trous, et qui permet d'éviter de mettre dans une marmite de la cheminée tout dans les ingrédients. Alors on pouvait séparer, on faisait cuire séparément la viande, les légumes et faire des sauces. Donc à cette époque-là aussi, on commence à faire les petits roux et la cuisine au beurre, les sauces au beurre, etc. Donc on arrive à une cuisine qui ressemble un peu plus à ce qu'on apprécierait maintenant, parce que la cuisine du Moyen-Âge, je ne vais pas la dénigrer, mais c'est quand même une cuisine un peu plus rustique, dû aux méthodes de cuisson, moins raffinée quand même malgré tout. Et vraiment, au XVIIe siècle, on a un intérêt pour la cuisine. D'ailleurs, il y a multiplication de livres de cuisine. Là, on a vraiment des sources pour pouvoir réfléchir et voir comment cette cuisine évolue. Et puis, un intérêt pour la cuisine également, de tout le monde. Et des classes bourgeoises aussi qui singent beaucoup les nobles. Oui, l'aristocratie, c'est le bourgeois gentilhomme un petit peu. Et on a toute cette création de cette cuisine qui est très intéressante en fait. Alors évidemment, avec toujours des liaisons au vin, des liaisons à la mie de pain, des choses un petit peu, les anchois, enfin des choses qui nous paraissent, même si moi je fais une recette de soubeaucoup avec une liaison à l'anchois qui est absolument délicieuse. Mais voilà, c'est des mélanges de saveurs qui sont encore un petit peu. Qui sont hérités du Moyen-Âge, mais on arrive vers quelque chose d'une cuisine un peu plus moderne avant le 19e, 18e siècle, où là, voilà. Là c'est raffiné.
Alors justement, on y arrive à ce fameux 18e siècle où finalement la société change peu à peu, où on a une approche de la table qui est différente aussi, avec le service qui change. Et puis vous évoquez, c'est passionnant, que le 18e siècle, c'est aussi le siècle où on va imprimer les premiers ouvrages véritablement de vulgarisation de la cuisine bourgeoise.
Avec Menon.
Notamment Menon.
Oui, voilà, Menon et la cuisine bourgeoise. Donc, il revoit les recettes qui étaient faites. Toutes les recettes jusqu'ici étaient faites par des maîtres queues de grands seigneurs. Donc, effectivement, ils avaient des cuisines aménagées, une armée de marmitons. C'était voilà, des cheminées immenses, plusieurs cheminées dans une cuisine. Enfin, c'était quelque chose de... Ou alors, il y avait la cuisine voilà, qu'on faisait dans la cheminée chez soi, traditionnelle, la marmite que l'on remplissait. Donc, au XVIIIe siècle, on voit cette cuisine bourgeoise. Les recettes sont simplifiées pour les ménagères qui... Enfin, les ménagères, j'aime pas ce terme. Enfin, les maîtresses de maison qui cuisinent elles-mêmes ou qui cuisinent avec des cuisinières. Mais voilà, une cuisine qui est héritée de cette cuisine aristocratique, mais simplifiée. Et puis surtout, on voit au XVIIIe siècle plusieurs choses qui sont très intéressantes pour la cuisine au vin. C'est l'intérêt de la classe aristocratique pour la cuisine. Ils s'y mettent eux-mêmes. Enfin, on voit dans les titres de recettes les noms des seigneurs. Donc, soit les cuisiniers leur ont dédié les recettes, soit la comtesse du Barry, du Barry, qui cuisinait, paraît-il, pour son royal amant.
La comtesse.
Oui, c'est ça. Je cherchais si elle avait un autre titre. Mais le potage à Dubarry, le potage Saint-Germain, bah, toutes ces... Donc, ils se mettaient aussi en cuisine pour une cuisine beaucoup plus simple. Et puis, il y a eu quand même la grande révolution au XVIIIe siècle du vignoble. On a quand même maîtrisé la culture, amélioré la culture, maîtrisé les vinifications bien, d'une façon bien plus intéressante et qui permettait de garder le vin beaucoup mieux qu'autrefois. Donc, il y a à la fois un intérêt pour le vin, un intérêt pour la gastronomie. Et puis, l'art de la table. On a des verres, plusieurs types de verres. Jusqu'au XVIe siècle, on avait un verre pour deux, ou enfin, des gobelets, c'est quand même pas idéal pour boire le vin. Et là, on a des services en cristal, tout un art de la table, des conversations qui tournent sur la gastronomie, l'art de vivre, le goût. On découvre aussi le goût, on s'intéresse au goût. Donc il y a quelque chose de... On appelle ça d'ailleurs la révolution d'une nouvelle cuisine au XVIIIe siècle, qui est tout à fait intéressante et qui permet de considérer la cuisine avoir un autre regard sur la cuisine et cette cuisine au vin qui évolue beaucoup à cette époque-là. Avec les sauces au vin, avec quelque chose de beaucoup plus raffiné qui s'approche de la nôtre et que vont continuer, faire connaître au grand public au siècle suivant les grands chefs.
Voilà. Alors le siècle suivant, justement, on y vient, c'est le siècle de la révolution industrielle, c'est le siècle qui va permettre aussi, par le déploiement de la voie ferrée, l'acheminement de manière beaucoup plus rapide de denrées d'un point à l'autre de France. C'est aussi la commercialisation qui devient exponentielle des vins, dont on maîtrise par l'utilisation généralisée de la bouteille, la conservation. Et donc, c'est l'affirmation de la cuisine bourgeoise et aussi par le fait que désormais, la cuisine n'est pas uniquement, j'allais dire, l'apanage de seigneurs et d'aristocrates qui ont une suite et un cuisinier, etc., ou bien la cuisine individuelle, mais elle devient aussi la cuisine de certains chefs qui ouvrent un restaurant et qui donc vont pouvoir faire connaître leur talent, leur plat à n'importe qui souhaite peut-être découvrir une autre cuisine que celle qu'il a à la maison.
Oui.
Donc vous avez là, vous brossez, j'allais dire, le portrait de cette société. Un mot peut-être justement sur ce qui est finalement l'ancêtre de la cuisine d'aujourd'hui.
Bien, si on lit les premières, c'est en France que sont nées les premières critiques gastronomiques, alors Grimaud de la Reynière en particulier, dans son manuel des Amphitryons, qui dit à un moment que le ragoût est la cuisine qui est le mets le plus prisé. Le braisé, qui est le roi des plats, en fait, qu'on en apprécie le plus au 19e siècle. Cette fameuse cuisine bourgeoise, extrêmement prisée des personnes qui à la fois vont au restaurant, les nouveaux restaurants qui sont créés et justement à cette époque-là, et de ceux qui font la cuisine chez eux, alors avec tous ces civets de lièvre, matelotes et tous ces braisés qui vont devenir la succulence. En fait, c'est pour Escoffier dit que ce sont la succulence de la gastronomie, c'est le plat le plus extraordinaire et le plus difficile. C'est par les ragoûts surtout que brillait l'ancienne cuisine française. Après, comme il est quand même très, très cocorico, c'est par les ragoûts, au contraire, que pêchent toutes les cuisines, surtout la cuisine anglaise. J'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans l'assemblée. Donc voilà, c'est cette cuisine. Enfin, le ragoût, finalement, ce n'est pas de mettre de la viande dans de l'eau ou dans du vin. C'est quand même une cuisson qui est très, très particulière et qui nécessite quand même un petit peu de savoir-faire et un petit peu de technique. Et c'est la grande cuisine du 19e siècle. Et puis, toutes ces sauces. Ces sauces riches, et c'est la horrible sauce espagnole sur laquelle on rajoutait du vin dans le vin, les sauces Périgueux, Madère, qui vont vraiment être le fleuron de la gastronomie. Les sauces, c'est quand même vraiment une particularité de notre pays, hein, quand même. Et elles vont être, à cette époque-là, riches. Riche. De toute façon, la cuisine du 19e siècle est une cuisine riche. On aimait les gens qui avaient de l'embonpoint. On aimait. Voilà. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est aussi à cette époque-là que l'on fait évoluer cette cuisine qui, au départ, est une cuisine familiale populaire. Je dirais presque autarcique. Les premiers ragoûts, c'est vraiment la maîtresse de maison qui mettait dans une marmite tout ce qu'elle avait sous la main pour régaler sa famille. Il fallait tous les jours faire. Et ça permet aussi aux femmes qui, à l'époque, même si on parle du travail des femmes, quand elles étaient artisans ou quand elles étaient à la campagne, elles travaillaient au champ ou dans leur boutique. Donc on mettait à cuire et quand 2 heures ou 3 heures ou 4 heures après, c'était bon à manger. Donc c'était extrêmement pratique. Donc elle est restée aussi parce qu'elle avait ce côté à la fois pratique et succulent. Parce que c'est quand même très bon, il faut bien reconnaître. Donc ça permettait aussi d'attendrir, d'utiliser des morceaux économiques, mais plus... qui demande une longue cuisson. Et puis au 19e siècle, on s'est beaucoup intéressé justement sur la cuisson, sur l'influence de la cuisson, sur la viande. On recherchait l'expression, la succulence. C'est le point. Escoffier disait qu'avec le ragoût la viande a atteigné son point de succulence, les ragoûts et les braisés, puisque voilà, tout se fond, le collagène, tout ce qui est dit dur et compliqué va fondre, va donner des sauces en plus onctueuses, ce qui est vrai en plus. Et presque, on a presque de la gelée quand on les laisse refroidir. Et c'était des plats qui pouvaient se servir chaud, froid, réchauffés, enfin, qui n'en sont que meilleurs réchauffés d'ailleurs.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on arrive finalement après le 19e siècle au 20e. Et là, votre ouvrage, évidemment, évoque tout un tas de recettes. Alors, avant peut-être d'évoquer la recette, j'aimerais que vous nous disiez vraiment, pour vous, ce que braisage, ce que marinade, ce que déglaçage veut dire.
Ah, c'est trois techniques différentes. La marinade, est, alors quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui servait à conserver les viandes et surtout à rendre un peu moins coriaces des viandes, surtout des viandes de chasse. Au départ, c'est né pour les viandes de chasse, puisque la chasse à courir après la bête faisait qu'elle envoyait aussi des toxines dans ses muscles, et de mariner longtemps avec du vin, du vinaigre, toutes sortes d'épices, du poivre, et des herbes aromatiques, etc., permettait à cette viande de perdre ses toxines, de se bonifier, en fait. Après, qu'est-ce qu'on a dit ?
Et aussi peut-être d'apaiser un peu le
goût très fort.
Très puissant oui. de certains
très puissant, oui,
et surtout certaines pièces, puisque oui. à l'époque on mangeait la totalité de
oui,
de,
c'est ça.
Rien. Donc certaines pièces étaient quand même assez
oui, 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 il fallait mieux. Ça permettait de la rendre plus consommable, ouais. plus facile au palais.
Le braisage, après, donc.
Alors, le braisage, c'est toute une action. On s'est fait saisir la viande et ensuite, il y a le mouillement, le fameux mouillement au vin ou à la bière. On peut en faire, dans le nord de la France, on fait des mouillements à la bière qui sont exquis, au cidre, à l'eau, si on veut, mais enfin, c'est un peu moins goûteux. Et selon que l'on utilise des vins rouges, des vins blancs, que ce soit avec les poissons ou les viandes, on a des résultats différents. Donc là, cette cuisson à la viande permet une espèce d'osmose, c'est-à-dire le liquide va pénétrer la viande et là, les sucres sortent. Enfin, il y a un mouvement de va-et-vient extrêmement intéressant qui permet d'avoir un jus extrêmement goûteux et une viande qui s'est imprégnée de tous les sucres de la cuisson, c'est-à-dire le liquide, mais aussi les épices, les herbes aromatiques, tout ce qu'on a mis, en fait. Le choix est large, c'est des cuisinières un peu expérimentées et font des choses tout à fait remarquables. Et c'est vrai que ça reste un plat très gravé dans l'imaginaire des gens, dans le souvenir gustatif. C'est souvent un des premiers... une des premières relations avec le vin que l'on a dans la cuisine, c'est qu'il a perdu tout son alcool, donc on peut en manger même si on est un enfant. Mais autrefois, on donnait du vin aux enfants, souvent coupé d'eau. Maintenant, on est très hygiéniste, on n'a plus le droit de boire. Mais on faisait goûter facilement un peu de vin aux enfants. D'ailleurs, c'était bien. Finalement, ils apprenaient Colette. Vous savez, connaissez le texte de Colette, là. Voilà, on apprend à goûter le bon vin et à l'apprécier. Et c'est vrai que c'était la première relation au vin, avec la sauce, avec le jus. Et quelque chose d'extrêmement intéressant. Et sur le plan du goût, c'était quand même assez remarquable. Ça change complètement. Enfin, on fait cuire un morceau dans l'eau, un morceau dans un mouillement au vin. Ça change tout. Et puis, pas n'importe quel vin. Enfin, voilà, il y a aussi... Et ce qui est très intéressant, ce qui permet aussi d'avoir... Ce que j'ai mis des recettes à l'intérieur qui illustrent le propos. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une recherche sur cette cuisine. Mais les cuisines traditionnelles permettent de montrer comment une daube, qu'elle soit faite en Bourgogne, qu'elle soit faite par chez nous dans le Sud-Ouest, qu'elle soit faite en Provence, en raison des vins différents et en raison des ingrédients différents que l'on va mettre selon la région où on habite, puisqu'autrefois, quand même, les ingrédients voyageaient moins que maintenant, on a des recettes complètement différentes. Mmh. C'est qu'une daube de taureau avec un vin rouge un peu fort, puissant du sud, des olives, c'est différent d'une daube bourguignonne, c'est sûr, c'est ça.
J'ai assisté beaucoup, j'ai beaucoup aimé cela, parce qu'en fait, c'est un voyage dans les différentes régions françaises, et vous indiquez, vous montrez combien, justement, en fonction d'ailleurs des vins, une région, c'est un vignoble souvent,
oui.
et autour de ce vignoble, il y a donc des ingrédients spécifiques et donc qui créent des recettes particulières. Et la viande de telle région avec le vin de telle région n'a rien à voir avec pratiquement les mêmes ingrédients, enfin entre guillemets, c'est-à-dire la viande d'une autre, mais un vin différent. On parlait à l'instant justement de viande du sud-est, voilà, de taureau avec un vin de Provence, et des arômes de garrigue, de
oui,
plantes grasses,
oui.
De la nature provençale qu'on a. Effectivement, ça donne une coloration complètement différente.
Ah oui, qui est différente de la daube du sud-ouest qu'on mangeait à Noël, qui était encore autre chose. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. En Alsace, on met du Riesling, on met du coq au vin, quand même, est différent d'un coq au vin que l'on va faire ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est né dans une région de vin, en général au bord d'un fleuve. Donc on a tout, on a le poisson, on a les forêts giboyeuses, on a les prés, on a donc tout se mélange dans la casserole. Et chaque région a une identité. En fait, c'est vraiment au départ une cuisine de terroir, en fait. Hein. Et non, après on se déplace, les chefs aussi, ils se sont déplacés, on fait connaître les recettes qui étaient les leurs. Mais c'est vraiment une cuisine très authentique qui a un parfum de terroir. Alors évidemment, ça peut avoir un côté un peu désuet, mais je trouve pas. Je trouve que c'est encore quelque chose qui marque les régions. On va en Alsace pour manger un coco vin, une choucroute, un bekoff, ce qui est quand même quelque chose d'assez formidable. Voilà. Et chez nous, on a autre chose. C'est plus les sauces ou les daubes. Dans les Pays de Loire, c'est plus le poisson. On a toutes sortes qui prennent des noms différents. C'est la bouilleture, c'est la matelote. C'est très très joli. En plus, c'est un côté. Moi, je trouve que on joue avec les mots, les sonorités très intéressantes. Et c'est vraiment l'expression d'une vie. Enfin, on imagine un peu, on se replace. Ah oui, là-bas, il pêchait. Le pêcheur ramenait des poissons. Il ne pouvait pas tout vendre. Et il a, avec le reste, il s'est fait des petites matelotes qui étaient savoureuses. Le vin, quand, tout le monde avait une treille, le jus de la treille. Hein, voilà. Tout le monde avait quelques arpents, quelques rangs de vignes. Il faisait son vin plus ou moins bon. Mais au moins, dans la cuisine, ça marche toujours, de toute manière. Même s'il est un peu acide, un peu grincer les dents, il perd tout ça. Mais il faut faire très attention aussi au vin qu'on met, parce qu'il y a des vins très tanniques qui se marient pas du tout à la cuisson au vin.
Allons-y, Ségolène, même on peut citer peut-être certains crus que vous aimez, vous utilisez, ou avec lesquels vous avez beaucoup d'émotions dans certains plats. On évoquait le coq
alsacien, oui.
Ou bien, je ne sais pas, aussi au vin jaune, en Jura.
Le poulet au vin jaune. Alors ça, c'est un moment d'émotion même, hein, je crois. C'est fabuleux. C'est un vin qui est extraordinaire. Ouais. Le vin jaune, le poulet de Bresse et les morilles, alors ouais. Là, c'est un moment d'anthologie. Hein. Ouais. Quand c'est bien cuisiné, c'est un plat remarquable, tout à fait remarquable. C'est vrai que voilà, c'est chaque région, donc ça va à un goût différent. Le vin jaune, c'est quand même un goût très particulier. Moi, j'en suis folle du vin jaune, mais c'est vrai que c'est très particulier. Et c'est quand même une cuisson, c'est une cuisine qui demande quand même de la préparation. Il faut être bon, enfin, quand même un petit peu bon cuisinier, alors qu'une daube, c'est pas finalement si compliqué que ça à faire, même si on est débutant. Moi, c'est par là que j'ai débuté la cuisine, c'est avec ces recettes-là. Parce que malgré tout, si on suit bien le protocole, puis après, on les fait, on les invente, on les modifie une fois qu'on a un peu maîtrisé ça. Puis c'est très, très pratique parce qu'il y a ce côté longue cuisson. Et moi, je trouve que la longue cuisson, elle ramène aussi à une époque où on prend son temps. Les gens vont dire, j'ai plus le temps de faire un pot-au-feu, j'ai plus le temps de faire une daube. On l'a fait la veille au soir, on la réchauffe le lendemain. On l'a fait pendant qu'on fait autre chose, elle cuit pendant qu'on travaille, pendant qu'on dort, pendant que voilà. Et c'est à feu très doux. Il y a une espèce de, comme disait Colette, si la cuisine se mêle de sorcellerie. Voilà, il se passe des choses dans le chaudron, dans la cocotte, pendant qu'on fait autre chose. Et voilà, on met des choses crues et il ressort quelque chose d'absolument magnifique. Et moi, je trouve ça, c'est un peu magique, cette cuisine. Enfin, elle a un côté tout à fait magique. Et puis, elle parle de ce qu'on aime, des vins qu'on aime, parce que ça, on va choisir un vin qu'on aime bien. C'est vrai que les vins, les Côtes du Rhône se mêlent merveilleusement de cette cuisine-là. Il ne faut pas qu'il y ait de tanin. Il ne faut pas qu'il y ait de tanin, ça durcit le vin. Il faut choisir son vin. Il ne faut pas qu'il soit trop acide. On avait fait des essais, on a fait réduire toutes sortes de vins pour voir un peu comment ils réagissaient à la réduction. Et il y a des vins, c'est une catastrophe. Donc voilà, un vin bouchonné, de toute façon, il n'a qu'une... Qu'une destination, c'est l'évier. On n'en fait rien d'autre du tout. Mais c'est vrai qu'après les autres vins, on peut en faire du vinaigre. Un vinaigre qu'on a fait soi-même, on peut le réutiliser en cuisine pour des déglaçages, justement, dont on parlait. Bon, puisqu'il a vraiment un goût de vin, c'est tout à fait extraordinaire. Et là, on obtient des choses qui sont très intéressantes. Et le déglaçage, ben oui, c'est né avec les sources aussi en particulier. On déglace juste un petit jus de cuisson. Petit coup de vin, on touille, on monte avec une petite noix de beurre et on a un truc. Et il n'y a pas besoin d'être grand cuisinier pour faire ça. Enfin, je veux dire, il faut juste avoir l'envie, la gourmandise. Il faut être gourmand pour faire la cuisine. De toute façon.
Et je pense qu'il faut aussi cette notion de temps pour ces cuisines en sauce ou ces cuisines dont vous parlez, ces daubes. Ce sont des plats qui cuisent longtemps, donc qui prennent du temps. Et aujourd'hui, la société ou les gens qui font la cuisine, on a l'impression qu'on a peu de temps. Mais finalement, ce qu'on remarque, c'est que ces plats-là permettent justement de récupérer le temps perdu, entre guillemets, à le faire, le soir où on déguste le plat.
Exactement.
Parce que l'ennui, pour ceux qui font la cuisine, et on en a tous les deux, c'est que si on veut bien servir ses hôtes,
il faut profiter d'eux,
c'est compliqué de marier les deux, a fortiori quand on cuisine, au dernier moment, alors que par ces plats-là, ça permet d'avoir à la fois un plat magnifique, mais aussi de pouvoir passer du temps avec
ça. On est très zen. On l'a préparé, on l'a fait cuire la veille au soir, on l'a fait réchauffer. On ouvre le couvercle, on l'apporte dans la marmite, c'est bien meilleur. On ouvre, et là, les odeurs, déjà, on a faim. Ouais. Alors, on a envie de manger le plat. Et puis, c'est vrai qu'après, si on a un bon pain à table, en sauce, c'est le bonheur. Enfin, je veux dire, c'est très simple. C'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est très simple. Alors, après, j'ai mis des recettes un peu plus compliquées. Non, pas compliquées. Parce que moi, j'en ai goûté quelques-unes des chefs.
Hein. Alors justement, on y vient, parce que vous avez quand même fréquenté, on le voit dans toute la partie centrale où on a ces plats qui sont exposés. Donc, des chefs divers étoilés. Et vous avez mis en relief, finalement, cette utilisation très différente du vin, qui peut être un trait de sauce, qui peut être aussi dû à une cuisson particulière. Qu'est-ce que aujourd'hui la cuisine au vin ou à base de vin fait par les chefs vous inspire par rapport à ce que vous avez pratiqué, à ces recettes un peu transmises de mère en fille ou de père en fils? Qu'est-ce que cette approche contemporaine, même si certaines recettes sont assez traditionnelles finalement, que les chefs font aujourd'hui, vous inspire? Comment aujourd'hui on envisage le vin dans la cuisine?
Mais pour moi, c'est une continuité. Ça montre que cette cuisine, elle est toujours à renouveler, toujours à réenchanter en fait. On peut inventer à partir d'une daube, on peut faire plein de choses. Et les chefs nous le montrent. Et puis, c'est aussi un autre regard sur le vin. On a depuis quelques années, surtout avec la nouvelle cuisine, le vin a pris beaucoup d'importance. Les accords mets et vins. Et dans la cuisine. Alors, elle a beaucoup servi pour les sauces. On a fait des sauces plus légères. Donc, c'est vrai qu'un déglaçage permet d'éviter de mettre de la crème, du beurre, enfin, des tas de choses un petit peu lourdes. Souvent, on dégraisse beaucoup les sauces. Alors, c'est vrai que le faire cuire la veille permet aussi de dégraisser un peu le bouillon de cuisson. C'est quand même nous qui avons quand même des vies un peu moins fatigantes qu'autrefois. Et on nous éliminons moins d'avoir une cuisine plus digeste et moins roborative quand même. Et puis, plus dans nos goûts aussi, on n'aime plus cette cuisine lourde où après le repas on est là, voilà, envie de faire la sieste. Donc c'est ça, et c'est très enchantement de cette cuisine, cette invention, cet imaginaire. Donc on garde ces bases traditionnelles, populaires. C'est la façon, les chefs, quand on leur demande, ils vous disent toujours, moi j'ai envie de faire la cuisine parce que ma mère, la daube de ma grand-mère, voilà. Y a... De toute façon, ce qu'on a de l'enfance, le souvenir gustatif de l'enfance sont les plus forts imprégnés en nous. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours, les hommes disent à leurs femmes, ouais, les bonnes tables en quête, mais celle de maman, voilà. Bon, c'est vrai. Et pourquoi? Non, elle n'est pas forcément meilleure, mais elle est notre première approche et notre première découverte du goût. Et ça, c'est extrêmement important. Et ma fille, quand elle était partie faire des études à l'étranger, m'avait demandé de lui faire un petit carnet des cuisines, des recettes qu'elle aimait que je lui fasse et qu'elle a fait là-bas à l'étranger. Et c'est vrai. Et pourquoi ? Parce que c'est quand même quelque chose de fort en nous. Et c'est quelque chose d'important. Et ils utilisent ces saveurs. Il y en a un un chef que j'aime beaucoup, qui est à Rennes, qui est un grand chef, et qui fait l'araignée de mer, qui est quelque chose que j'adore. Et il fait cuire une crème de pommes de terre qui fait dans du vin du Jura. Une crème de pommes de terre qui va faire cuire avec un petit peu de vin du Jura réduit. C'est formidable. Donc, en fait, on reprend l'idée traditionnelle des réductions, du vin, etc., mais on la modernise. C'est pas plus moderne. C'est plus moderne, c'est plus actualisé, on va dire. Ça correspond à nos goûts. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a aussi tout ce qui revient à la mode et que je trouve ça tout à fait extraordinaire, c'est tous ces desserts au vin, ces fruits cuits dans le vin. Pourquoi on faisait cuire les poires? Parce qu'elles étaient dures. Il y avait tellement de variétés de poires autrefois, mais beaucoup étaient très dures. Donc, les faire cuire dans le vin permettait de les rendre plus savoureuses. On ne se cassait pas les dents dessus, c'était quand même un avantage. En tout cas, à l'époque, on n'avait pas toujours de bonnes dents. Et puis, des fruits qui sont pas forcément extraordinaires, voilà, le vin va leur donner quelque chose de... Une poire au vin, c'est quand même un dessert, pour moi, un des meilleurs desserts d'hiver. Enfin, c'est formidable. Et là, il y a quelques recettes tout à fait extraordinaires, dont une de figues au PX, Pedro Jiménez, qui est quand même un vin espagnol assez étonnant. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un lien, en fait. C'est un lien entre le passé et le présent qui montre comment, finalement, les chefs... en partant des bases, font quelque chose d'absolument extraordinaire. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, j'ai tenu Enfin, on a fait un truc tout à fait extraordinaire avec la personne qui m'a mis en relation avec les vins et qui les connaît très bien, les restaurateurs. Ouais. Donc, il a mis leur caractère, leur petite...
C'est très sympa.
Oui, parce qu'en fait, ça va très bien avec les recettes. Généreux, là, il fait... Ouais. Voilà, il est généreux. Oui, sa recette est généreuse. Et il y en a qui sont plus pointilleux, plus précis, plus techniciens, qui vont plus à l'essentiel. Et on a des choses plus épurées, tout à fait. Ouais. Et il y a des choses vraiment... tout à fait extraordinaire. Ce que j'ai refusé de faire, c'est de mettre un tel à une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Non, non, non. Ils sont tous sur le même point, qu'ils aient 40 ans ou 24 ans et qu'ils aient deux ou trois ou pas du tout d'étoiles. Et ça, c'est pour montrer que finalement, c'est pas le talent, forcément, les étoiles qui vont faire que la cuisine est plus extraordinaire ou plus inventive. Pas forcément. Et il y en a qui sont quand même des inventions absolument extraordinaires, quand même. Le gnocchi de patates douces avec des fraises, des bois au Mont Basillac. Un crumble. Le noix vin, c'est assez formidable. Il y a des choses, j'en ai goûté quelques-unes qui sont vraiment très bonnes. Hein. J'étais voir quelques chefs qui m'ont fait goûter leur. J'ai goûté entre autres, mais il faisait un peu chaud, dommage ce jour-là, le fameux ragoût de pied de cochon. Oh, que c'était bon ça! c'est tout à fait étonnant. En plus, c'est vrai, comme c'est très gélatineux.
Oui, la consistance.
Il faut aimer. Ça
revient pas mal.
C'est une cuisine qui revient.
Parce que même les chefs, on parlait des étoiles, mais bon, sans les citer, les grands trois étoiles aujourd'hui ont très souvent réouvert un établissement qui est justement qui est un bistrot avec des cuisines plutôt anciennes. Je pense notamment au Lazare, qui est Gare Saint-Lazare de Fréchon, à Paris, où là, on retrouve tous ces plats-là, c'est-à-dire les cuissons longues. Et même, on parlait de vin tout à l'heure. J'ai été fasciné de déguster le maquereau vin blanc.
C'est bon, ça.
On n'avait pas beaucoup de repères. Et en fait, le vrai maquereau vin blanc, c'est magnifique. Oui. Avec donc ce poisson assez gras, avec le vin justement qui fige
qui est un peu acide. Donc on a le gras contre l'acide du vin blanc, c'est tout à fait passionnant.
Quand le poisson est superbement choisi la recette est délicieuse, c'est magnifique. C'est une des grandes stars de la carte.
Et pourtant, le maquereau, c'est un poisson humble, on va dire. Mais c'est un merveilleux poisson. Et c'est vrai que le maquereau vin blanc, boîte, c'est très bon.
C'est très bon. Et il ne faut pas se tromper de vin. Parce que vous évoquiez tout à l'heure qu'il y avait vraiment des vins...
Mais il faut un vin acide, muscadet.
J'ai fait un jour une recette avec un vin qui n'était pas assez acide. Et c'est vrai que ça fait tomber le plat.
Mais il faut toujours bien choisir son vin parce que c'est extrêmement important, parce qu'on va avoir des résultats qui peuvent être désastreux avec certains vins. C'est pas que le vin est mauvais, mais il va pas avec les ingrédients choisis. Et alors, quand j'avais fait relire mon livre pour vous vérifier quand même, j'avais pas dit de sottises, j'avais pourtant bien sur le côté technique par un chef qui connaît son escoffier par cœur et qui a été un grand chef, qui m'a dit: il y a quelque chose qu'il faut que vous disiez à vos lecteurs, c'est que quand on fait le vin rouge c'est très important de mettre du poivre avec ça. Ça compense, ça joue très bien avec les tanins, ça les adoucit et ça fait ressortir les saveurs du vin. Donc ne pas hésiter à mettre une poignée de grains de poivre dans une daube, parce que ou dans un ragoût ou dans n'importe quoi, ça qui cuit au vin, une matelote, parce que ça va faire ressortir les arômes du vin. Donc ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes auxquelles on ne pense pas forcément, évidemment. C'est pour ça qu'il faut toujours faire appel aux chefs, parce que c'est leur métier, ils y pensent toute la journée, même pendant qu'ils dorment, et puis ils ont des savoir-faire.
Si vous aviez, vous, à nous citer une ou deux recettes qui vous emballent complètement, que vous aimez faire ou que vous avez dégusté avec un plaisir extraordinaire, ce serait quoi?
Alors, moi, j'ai un grand faible pour la daube. Je trouve que c'est un plat extraordinaire. Qui n'a pas le même goût selon le morceau que vous allez mettre, le vin que vous allez choisir. Et puis, alors ça, c'est le plat traditionnel. J'ai parlé tout à l'heure de la poire au vin, que ce soit rouge ou blanc, ou un moelleux, ça peut être extraordinaire. Et puis, alors, en plat plus luxueux, le poulet au vin jaune. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce vin jaune, c'est ce vin qui est un peu oxydé, qui a un petit goût de noix, le vin de l'Arbois. Et qui est dans un contenant particulier, puisqu'il est, il fait pas 75, mais que 69
62
centilitres.
Ça s'appelle le clavelin.
Clavelin, c'est ça. Il s'évapore parce qu'il reste des années en tonneau. Et vous, c'est quoi vos
plans ? J'aime beaucoup ce qui est à partir de certains plats, peu importe, qui peuvent être avec des gelées faites à base de vin. On peut très bien avoir, par exemple, du foie gras en gelée au vin, ce qui donne un côté extrêmement frais et qui marie les textures, parce que le foie, c'est un peu gras. Et la gelée donne un coup de fraîcheur qui peut être formidable. Ou même le foie gras qui est poché au vin.
Oui.
Et ça peut être très très bon, plutôt qu'un foie poêlé où on a vraiment la friture. Oui. Là, le fait de le pocher dans le vin, là aussi, il donne une fraîcheur qui peut être... qui peut être vraiment, moi je trouve ça formidable. Et puis après, moi j'aime bien, parce que c'est un peu rare, la cuisson de certains gibiers, et en particulier du lièvre, puisque si on a beaucoup de temps, et un peu de truffes et un peu de foie gras, on peut tenter chez soi, après 25 heures de cuisine au moins, le lièvre à la royale, entièrement désossé.
Je n'ai pas cité, mais ça...
Ça quand on a la chance d'en avoir goûté un ou deux, formidables... Bon, c'est vraiment une grande émotion. C'est un très grand plat de la cuisine française. Donc moi je suis, si j'avais deux à citer, ce serait peut-être ça.
Oui, mais c'est des heures de
Manger
au restaurant.
Franchement, le lièvre à la royale, c'est de l'esclavage. Pour finir, j'ai une dernière petite évocation, puisque votre livre est très riche, et moi j'ai beaucoup aimé quelques lignes que vous évoquez à la fin. Et vous indiquez: le vin n'est pas une boisson ordinaire, parce que là il sert à illustrer, à illuminer la cuisine. Et vous évoquez le fait qu'il modifie l'esprit de celui qui le déguste. Et vous ajoutez: les Grecs autrefois avaient une belle expression pour dire cette modification. Ils l'appelaient anthéos, qui signifie littéralement en Dieu, et qui a donné le nom enthousiasme. Et je trouve ça génial, parce que finalement, effectivement, quand on lit votre ouvrage, quand on découvre ces recettes et la passion que vous avez mis à l'écrire, eh bien, c'est cette idée d'enthousiasme pour les bons moments, pour la cuisine, qui nous vient à l'esprit. Merci beaucoup, Ségolène, pour cette présentation.